Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les ondes de Radio G au 101.5 FM à l'écoute du 26e numéro de l'émission Radio Nippon. Le programme qui vous fait toujours voyager à travers la culture japonaise, laissez-nous donc vous faire découvrir cette culture qui nous passionne au fil des récits et des rencontres, un mardi sur deux à 13h. Aujourd'hui dans cet épisode de Radio Nippon, on commencera une fois n'est pas coutume par les actualités autour de la culture japonaise en Anjou. Pour la deuxième partie de l'émission, nous retrouverons encore une fois nos chroniqueurs, moi-même et Nicolas, chacun présentant une partie de la culture japonaise qui le passionne. Je continuerai toujours l'histoire du Japon autour d'une nouvelle ère, l'ère de Kamakura, et Nicolas nous présentera un petit coup de cœur roman personnel. Je te laisse en parler un petit peu.
Oui, donc il s'agira de « Je suis un chat » de Soseki. C'est un roman qui fait partie aujourd'hui de la littérature classique japonaise, en fait.
Super, bah écoute, moi qui aime les chats, je pense qu'on va en découvrir des belles. Je te laisserai donc nous présenter tout ça. Et tout de suite, sans plus tarder, retrouvons les actualités.
Je vais commencer par annoncer un événement organisé par l'association Angers Musée Vivant. Donc, c'est une série de conférences intitulée « L'art du Japon traditionnel, deux petits points ». Le culte de la beauté. Donc, il s'agit de 5 conférences qui seront organisées les mardis soirs en novembre et décembre de 18h à 19h30. Elles se dérouleront au théâtre Chanzy, rue Chanzy à Angers. Alors il faut s'abonner aux 5 conférences pour pouvoir assister à au moins l'une d'entre elles et le prix est de 27€. Voilà, vous aurez plus d'infos sur le site de l'association. Les 16 et 17 novembre se déroulera la 9e édition du festival Art to Play au parc des expositions à Nantes. Donc c'est un festival dédié à la pop culture, notamment japonaise. On y retrouvera entre autres l'ermite moderne, qui est un vidéaste pop culture manga, Haru, qui est un chanteur de pop rock japonaise, qui a notamment travaillé sur les musiques de Bleach, le dessinateur Sunsuke Saito, donc c'est le dessinateur qui a notamment animé les personnages du jeu Ape Escape. On y retrouvera également la 2e édition de l'Art to Play Before Christmas Cosplay, le dimanche. Et bon, beaucoup de vidéastes et autres assez connus, comme Louis San, Michael G, le joueur du grenier. La jeune fille, qui doit être une jeune femme maintenant, qui jouait Shirin dans Game of Thrones. Voilà, donc le pass de 2 jours sera 22€ et pareil, si vous voulez plus d'infos, il y a le site Art to Play, donc le site internet, pour avoir plus d'infos. Pour finir, il y a un concert immanquable pour les amateurs de rock, metal, metalcore et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a Crystal Lake qui se produira le 26 novembre au Tramendo, avenue Jean Jaurès à Paris. Le prix de la place est à 33,80€. C'est organisé par Impericon et c'est dans le cadre d'un événement concert. En fait, c'est une tournée de concerts en fait partout en Europe. Ça s'appelle Never Say Die. Et je comptais aussi prévenir nos chers auditeurs que le parc de Molévrier ferme ses portes du 18 novembre au 14 mars inclus. Donc c'est la fermeture hivernale. C'est les derniers jours pour pouvoir profiter du Koyo. Pour désigner le changement de couleur des feuilles, passage à l'automne, tout ça.
Voilà, et pouvoir profiter d'un bon momiji, c'est-à-dire la contemplation des couleurs rougeoyantes des arbres japonais. Donc si vous voulez en profiter, chers amis auditeurs, surtout n'hésitez pas à aller au parc de Molévrier avant ce 18. Chers amis auditeurs et auditrices, si vous avez des avis, des suggestions ou même des propositions d'événements futurs à venir, n'hésitez surtout pas à nous rédiger un petit mail à radionippon1@gmail.com. Il n'y a pas de point, il n'y a rien, c'est radionippon1@gmail.com. Tout de suite, on va pouvoir enchaîner avec une première partie de l'histoire du Japon. Tu sais quelle ère je vais proposer ?
Tu l'as dit tout à l'heure, donc je m'en rappelle un petit peu, c'est Kamakura, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, c'est Kamakura. Mmh. Et tu sais pourquoi Kamakura ?
Je sais pas pourquoi tu as choisi ce thème, mais je pense que c'est parce qu'à ce moment-là, la capitale du Japon était Kamakura. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'il s'appelle ainsi.
Alors, en l'occurrence, c'était pas tout à fait la capitale qui est Kamakura.
Ouais.
Mais par contre, ils ont installé effectivement un gros élément du pouvoir japonais à Kamakura. Mmh. Mais c'était pas la capitale, puisque c'était toujours Kyoto qui est resté jusqu'en 1868.
Ok, mais je ne savais pas, tu vois.
D'accord, bah de toute façon là, on va pouvoir la démarrer. Du coup, effectivement, oui, Kamakura, parce qu'ils y ont installé un gros élément du pouvoir japonais, très exactement le Bakufu. Donc le Bakufu, c'était le gouvernement militaire japonais.
Ok.
Mais donc déjà, revenons un petit peu à nos moutons et à notre histoire, puisque en fait, la dernière fois, on s'était arrêté dans les années 1180 avec la victoire des Minamoto sur le clan et des Taira et des Fujiwara. Et donc du coup, le Japon va rentrer dans l'ère Kamakura, s'étalant environ de 1189 à 1333. Même si 1333, c'était pour mettre une fin à une certaine ère. Donc là, oui, c'est l'année où Kamakura a brûlé. Mais en réalité, c'est une période encore relativement trouble qui pourrait être très fortement rattachée à la suivante. Mais justement, là, je vais expliquer. Donc si on reprend, en 1889, le futur shogun au pouvoir est Minamoto. Très exactement, Minamoto no Yoritomo, Yoritomo de son prénom, qui, après avoir réussi à conquérir les terres de tous les Fujiwara au nom de l'empereur, va ensuite s'attaquer à toutes les terres des seigneurs hostiles, de la même manière, au nom de l'empereur. Et donc va conquérir toutes les terres des seigneurs hostiles et va s'imposer en maître. Et en complément de toutes ces conquêtes, il va développer, grâce à son gouvernement parallèle, justement le Bakufu, une société quasi-féodale basée sur un système de castes et de fidélité-soumission. Je m'explique. Déjà des castes, parce qu'effectivement, on va avoir le paysan, le guerrier, le shogun, un petit peu tout ça, et chacun va être plus ou moins élevé par rapport les uns par rapport aux autres. Et également, un système de relations fixé par des fidélités-soumissions, c'est-à-dire que Yoritomo lui-même va avoir une relation de fidélité-soumission avec ses vassaux, pour être exact. Les vassaux de Yoritomo vont avoir une relation de fidélité-soumission, et ses vassaux eux-mêmes vont avoir la même relation face à leurs vassaux, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, comme ça, donc chacun est dans une soumission avec un système pyramidal. Minamoto no Yoritomo va également réussir à transformer toute la paysannerie, en libérant la paysannerie des règles qui existaient et qui la régissaient à l'époque, en lui conférant des terres à cultiver, mais justement en plaçant les paysans comme une caste ayant le moins de valeur possible. Ainsi, ils se retrouvent inférieurs à une autre caste qui sont les samouraïs, les guerriers japonais. En revanche, Yoritomo n'a pas vraiment la main sur la cour de Kyoto. Et pour essayer d'imposer et de tenir la cour, il va finalement imposer son Kampaku. Le Kampaku, en fait, c'est un régent de l'empereur, quand l'empereur est trop jeune, ou une personne qui est là pour jouer les relations très proches avec l'empereur. Et ainsi, il va réussir à reprendre la politique aussi matrimoniale des Fujiwara. C'est-à-dire qu'il, par des systèmes d'alliances, de mariages, il va toujours réussir à maintenir les empereurs à sa famille. Jusqu'en 1192, où là, en 1192, enfin, Yoritomo se fait nommer shogun par l'empereur. Mais comme il n'arrive pas du tout à tenir la cour de Kyoto, il décide d'installer son Bakufu, son gouvernement militaire, à Kamakura. Et là, c'est parti, on démarre l'ère de Kamakura. Et là, du coup, on a deux choses. On a le shogun, l'empereur et le Bakufu. Le Bakufu va avoir un président qui va s'appeler le Shiken. Alors je dis président parce que c'est le terme que nous on connaît le plus, mais en fait le Bakufu va être dirigé par le Shiken. Mmh. Donc on va se retrouver avec un empereur, un shogun, limite officiel d'un côté, et le Shiken avec le Bakufu de l'autre. Et en fait le Bakufu va progressivement prendre le pas sur l'empereur et le shogun, bien qu'ils vont chercher à se débattre. Revenons à Yoritomo. Yoritomo arrive du coup sur un pays qui est littéralement ruiné et affamé par toutes les guerres qu'il y a eu entre les Minamoto, les Taira, les Fujiwara. Et du coup, tout le peuple va se rallier à Yoritomo, puisque justement il va conférer des terres aux paysans. Et ainsi, Yoritomo finit par régner en maître. Mais il règne en maître assez peu de temps, puisque en 1199, bah, malheureusement, il décède. Voilà, il est déjà décédé. Il aura profité 7 ans de sa vie de shogun. Mmh.
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal. Mais les Taira, qui finalement ils étaient pas très loin, vont chercher à reprendre un petit peu la régence et vont réussir à mettre à la tête du Bakufu, en tant que Shiken, un seigneur dit un seigneur Hojo. Et en fait, les Hojo sont une famille qui sont rattachées aux Taira. Et donc du coup, ce seigneur Ojo réussit à devenir Shiken, président du Bakufu, à l'aide notamment de la fille du seigneur Ojo, puisque la fille du seigneur Ojo était en fait la femme de Yoritomo. Mais ça va pas durer longtemps. Bah oui, déjà en 1203, l'enfant de Yoritomo, qui était devenu du coup le shogun par descendance, bah en fait il se révèle littéralement incapable et incompétent. Du coup, il est obligé d'abdiquer et il se fait assassiner. C'est direct. Et son fils, enfin son frère, Sanetomo, bah fait à peine mieux. Puisque même s'il prend sa place, qu'il réussit à faire démissionner le seigneur Ojo de l'époque, le fils du seigneur Ojo arrive et finit par faire assassiner Sanetomo. Ça passe.
Okay.
L'empereur voyant tout ça, il finit un peu par s'énerver. Donc l'empereur Gotaba décide de vouloir reprendre toutes les rênes du pouvoir. Il en a marre d'avoir un empereur, un shogun, un shiken, un bakufu. Donc il déclare le bakufu rebelle. Mais le bakufu s'en sort très bien puisque finalement il arrive à battre l'empereur, à exiler l'empereur. Et de ce fait, bah là, le Bakufu, il a toutes les rênes du pouvoir. Il peut désigner l'empereur qu'il souhaite. Et donc, du coup, le Shiken devient limite plus important que le Shogun. Il prend vraiment toute la place. Et ainsi, là, on va réussir à avoir toute une ère de 1219 jusqu'à 1274 où, bon, certes, il va y avoir quelques petites révoltes, mais le Bakufu va vraiment avoir le pouvoir. Il faudra quand même cependant noter une date, puisqu'en 1232, le Bakufu de l'époque installe un nouveau code appelé le Joei Shikimako, qui est rédigé en japonais. Et donc ce code, malgré quelques petites additions en 1243 et en 1286, restera en vigueur jusqu'en 1868. Par la suite, bon, comme j'ai dit, il y a quelques révoltes qui existent, mais bon, le shogun et l'empereur n'arrivent pas à finalement maintenir ces révoltes et à renverser le Bakufu, et bien qu'il soit officiel, c'est clairement le Shiken et le Bakufu qui détiennent les rênes du pouvoir. Et qui vient mettre à mal le Bakufu ? T'as une petite idée comme ça ?
Je réfléchis. Absolument aucune idée.
Eh bien, en fait, ça va être la Chine. Puisqu'en 1274, l'empereur chinois de l'époque décide d'envoyer 30 000 hommes, des Mongols et des Coréens, pour débarquer au nord de l'île de Kyushu. Okay. Et il y arrive, pas de souci. Et puis, pour des raisons qu'on ne sait pas, bah, le lendemain, il s'en va. Les 30 000 hommes s'en vont. Alors en fait, l'histoire, je pense que c'est une intimidation, même si on n'a pas les validations historiques. Je pense que c'est une intimidation, parce qu'en fait, durant toute l'année 1275, l'empereur chinois va régulièrement envoyer des émissaires en demandant au Japon de se soumettre à la Chine.
Okay.
Et systématiquement, le Bakufu va tuer ses émissaires.
Okay.
Systématiquement. Du coup, l'empereur, au bout d'un moment, il finit par s'énerver et s'agacer. Et en 1281, donc par rapport à 1274, on est quand même 7 ans plus tard. Cette fois-ci, il envoie 140 000 hommes. L'empereur chinois envoie 140 000 hommes. Alors là, bonjour la force. Hein. Mmh. Et là, bah, le Bakufu, il riposte comme il peut, mais au moment où il va perdre, bah, là, ils sont aidés par la nature, et il y a un typhon qui arrive, qui passe, qui massacre une énorme partie de la flotte qui était là. Mmh. Et du coup, bah, les hommes qui étaient à terre, bah, ils sont pas suffisamment nombreux, ils se font massacrer. Et tous les autres qui étaient à la mer, bah, ils sont repartis la queue entre les pattes.
Okay.
Donc du coup, bah, c'est, ça a un peu sauvé le Bakufu dans l'histoire en 1281. Et ça a également sauvé le Japon parce que du coup, ils ne se sont pas retrouvés sous influence chinoise. Mmh. Et donc, bah, y a mis à part quelques petites tentatives et autres, l'empereur chinois finit quand même par mourir en 1294. Et ainsi, le Japon va se retrouver dans une nouvelle période de pseudo-paix. Puisque c'est bon, la Chine a été vaincue, mais le Bakufu a tellement dû s'occuper de la Chine qu'il n'a pas pu s'occuper de l'intérieur des terres. Et là, bah, même si c'est la fin de la guerre avec les Chinois, ça va repartir en guerre civile. Puisque du coup, donc, le Shiken, en fait, malgré la mort de l'empereur, va conserver absolument toutes les troupes de samouraï mobilisées, parce qu'il a peur des attaques des Coréens qui sont assez proches et qui ont envie de s'étendre. Le problème, c'est que, bah, à force de l'immobiliser, les samouraïs, finalement, quand ils finissent par enfin être démobilisés, ils sont quasiment tous ruinés et sont obligés, malgré les lois, de vendre des terres au profit des marchands. Les marchands qui sont vraiment les seuls à avoir profité de cette guerre, puisqu'ils ont réussi à vendre des nourritures, de l'armement et autres. Et ils finissent, à la fin de la guerre, bah, à récupérer les terres, parce que du coup, bah, ils se retrouvent tous en galère financière.
Ok.
Et bah, le Bakufu, il va, du coup, tenter d'arrêter ça et va créer une nouvelle loi en 1297, sauf qu'en fait personne l'applique. Pire, puisque même l'empereur et le shogun vont chercher à soutenir tous les seigneurs de l'époque dans cette sorte de révolution. Mmh. Et du coup, on arrive en 1326 avec un empereur, Daigo Ni, qui refuse carrément d'abdiquer malgré les demandes du Shiken. Et du coup, bah, s'ensuit encore une guerre civile, bien qu'il soit soutenu par les nobles. Encore une fois, Daigo Ni, l'empereur, se fait battre par le Bakufu. Mais cette fois-ci, il réussit à s'enfuir, arrive à rassembler quelques troupes et repart à Kyoto. Et là, à Kyoto, il soulève absolument tous les seigneurs. Soulèvement général de toute la population. Il se rend à Kamakura et là, c'est terminé. Il brûle Kamakura. Et dès lors, il restaure le pouvoir impérial. Voilà un petit peu ce que c'était l'ère Kamakura. Sauf que même s'il restaure l'ère impériale, on pourra voir lors de la prochaine fois, lors de la prochaine mission, que eh ben, ça se passe pas aussi bien que ça. Puisqu'en fait, ça, ils vont rentrer dans une véritable guerre civile avec une multitude de guerres et des pouvoirs, puisque du coup, le Bakufu va essayer de renaître et autres. Enfin bon, on aura le temps de développer ça la prochaine fois. Voilà.
Ah, super. Merci Xavier.
Et bah, sur cette ère d'optimisme, on va pouvoir continuer avec l'optimisme de Victoria et sa première pause musicale. Donc je t'en prie Victoria, on te laisse l'antenne.
Et pour cette première pause musicale, restons dans l'actualité avec Haru, chanteur du groupe Universe en pause depuis 2016 et du groupe créé en 2018 Good Through Date, qui revient en France pour un concert lors de l'Art to Play. Si ce nom ne vous parle peut-être pas, certains ont cependant pu le voir en concert à Toulon en 2018 ou à Tours ou Lille cette année lors de conventions. Haru est aussi connu pour avoir réalisé le 24e ending de Bleach avec son groupe Universe. Écoutons donc cette chanson Echoes par Universe.
Vous êtes toujours sur Radio G, au 101.5 FM, à l'écoute de l'émission Radio Nippon. Comme vous l'a annoncé Xavier tout à l'heure, j'ai choisi de vous faire la promotion d'un ouvrage qui m'a particulièrement plu, Je suis un chat, de Natsume Soseki. Ce roman datant de 1905 fut dans un premier temps publié sous la forme d'un feuilleton dans la revue Hototo Gisu. On y découvre le quotidien de l'antipathique professeur d'anglais Kushami, qui signifie « éternuement » en japonais, du point de vue de son chat, qui est à la fois le narrateur de l'histoire et le principal protagoniste. C'est un roman satirique que j'ai trouvé particulièrement drôle et intéressant, et je vais maintenant vous dire pourquoi. J'en ai d'abord apprécié la forme. Comme je l'ai rappelé en introduction, le roman est d'abord paru en feuilleton. De plus, il faut savoir que Soseki n'avait pas de plan pour son récit. Ainsi, on a l'impression de lire une succession de scènes, la plupart se déroulent d'ailleurs dans le salon du professeur, représentant généralement des discussions et des débats entre les personnages sur des sujets divers et variés, notamment l'évolution de la société japonaise. Mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. Un autre des gros points forts du bouquin, ce sont ses personnages. Caricaturaux au possible, il s'agit quand même d'une satire humoristique, je vais brièvement vous présenter les principaux. Le professeur Kushami, propriétaire du matou, personnage érudit mais très conservateur, malade chronique, borné et ayant mauvais caractère. Meite, le bon vivant de la bande, toujours présent lorsqu'il s'agit de faire une farce à l'un de ses compagnons, est toujours prêt à se lancer dans de longues tirades, quitte à raconter n'importe quoi pour monopoliser l'attention. Ensuite on a Kaneda, l'antagoniste de notre bon professeur, un riche homme d'affaires, le plus riche du quartier, prêt à tout pour augmenter son capital. Vient ensuite Kangetsu, jeune doctorant en sciences et ami de Kushami. C'est lui qui fait le lien entre le professeur et Kaneda, car il s'intéresse beaucoup à la fille de ce dernier. Et enfin, nous avons le chat, un chat qui n'a pas de nom, ni beaucoup de considération de la part de ses maîtres. Il est recueilli par Kushami enfant, il jouit d'une très grande maturité et d'une grande érudition. Soseki en a fait un observateur froid, qui passe son temps à critiquer le comportement et les réflexions des personnages humains, et s'évertue à prouver au lecteur que nous avons affaire à une belle bande de parfaits imbéciles. Je souhaite également ajouter un petit mot sur le traitement des femmes dans l'œuvre. Soseki était misogyne. Ça ne fait aucun doute. Ainsi, les femmes y sont décrites comme des mégères incultes et vénales, responsables en partie de la médiocrité des personnages masculins. Enfin, un des plus grands intérêts du livre pour ma part, c'est le contexte qu'il met en scène. L'action se déroule au début de l'ère Meiji. L'auteur insiste énormément sur l'opposition qu'il y a pu exister entre la partie de la population japonaise attachée aux traditions et voyant d'un mauvais œil l'occidentalisation de celui-ci, représenté dans le roman par Kushami et dans une moindre mesure ses amis, et l'autre partie, profitant de l'ouverture du pays au reste du monde et du rattrapage technologique voulu par le gouvernement, ici représenté par la famille Kaneda, principalement. Il est évident que l'auteur s'est inspiré de son vécu pour écrire son roman, lui-même prof d'anglais, malade du foie, chronique, et il a également adopté un chaton au cours de sa vie, donc c'est vraiment... il s'est beaucoup inspiré de lui-même pour créer ses personnages. Tout à fait. Mais pas uniquement dans Kushami. Justement, il y a une petite part de lui dans d'autres persos également. Voilà, donc pour faire bref, j'invite tout le monde à se plonger dans ce récit. Il est assez difficile de rentrer, je dirais, dans le délire, entre guillemets, de l'auteur. Il y a beaucoup de monologues du chat, par exemple. Il y a pratiquement pas d'action, c'est beaucoup des dialogues. Donc c'est... assez difficile pour quelqu'un qui ne serait pas habitué à la lecture de se lancer là-dedans. Il y a aussi quelques longueurs, mais bon, c'est un livre que j'ai trouvé très drôle et très instructif.
Merci Nicolas pour ta chronique. Maintenant, on va pouvoir retrouver Victoria pour la deuxième pause musicale de l'émission.
Vous êtes toujours sur Radio G au 101.5 dans l'émission Radio Nippon. Et pour finir l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler de Starry Sky, un groupe aux membres français pourtant bien influencé par la scène japonaise. Au rythme rock, ils sont notamment connus pour avoir créé un fan opening de One Punch Man ou la danse des internets. Proposant des chansons liées à des défis déjantés, on peut souvent les retrouver lors des conventions, et ils seront donc présents à l'Art to Play ce week-end. Et pour vous faire découvrir ce groupe, je vous propose donc d'écouter une de leurs créations, Forget Me Not, par Starry Sky. Sur ce, bonne écoute, et en dans 2 semaines, même lieu, même heure, sur Radio Nippon.